Et je suis sur une série de prédications sur l'évangile de Marc. Alors, vous commencez à connaître un peu le schéma général. C'est donc un livre qui est très synthétique, qui est surtout un livre d'action plutôt qu'un livre d'enseignement théologique profond, comme certaines épîtres, par exemple. Et le titre du passage que l'on va méditer ce matin, c'est Non à l'hypocrisie spirituelle. Non à l'hypocrisie spirituelle. Et avant d'aller plus loin, je rappelle qu'il vient de sortir très récemment deux excellents commentaires sur l'évangile de Marc. Alors, en voici un. Vous voyez que c'est déjà assez épais, mais ce sont des commentaires très, très intéressants, écrits par Dominique Anger, qui est un professeur de théologie qui enseignait dans un passé, une quinzaine d'années, il enseignait à l'Institut biblique de Genève, et maintenant il est doyen d'une faculté de théologie au Canada. Et ces deux commentaires sont vraiment exceptionnels. Deux autres, d'ailleurs, toujours sur l'évangile de Marc, vont sortir prochainement. Donc vous pourrez voir, pour passer commande, si ça vous intéresse, auprès du stand de librairie à la sortie du culte. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième partie du chapitre 7 de l'évangile de Marc, et nous verrons les versets 14 à 23. Donc nous sommes toujours dans le même thème, d'ailleurs, que la dernière fois. Celui de l'hypocrisie spirituelle dont j'ai donné le titre tout à l'heure. Et souvenez-vous que nous avions vu que Jésus avait eu un échange très musclé avec les pharisiens. Les pharisiens, donc, qui reprochaient aux disciples de Jésus de ne pas suivre le rituel de purification avec le lavement des mains avant le repas. Tradition juive, il fallait se laver les mains avant le repas. Et les disciples de Jésus, eh ben, ils passaient outre ce rite et ils ne se lavaient pas les mains avant le repas. Jésus les avait remis en place très sérieusement, les pharisiens, en leur montrant que eux-mêmes, en mettant en exergue le rituel de la tradition, eh bien, ils en venaient à désobéir de manière flagrante à l'un des 10 commandements de l'Ancien Testament, celui de honorer son père et sa mère. Vous avez vu cette logique, illogique précisément, des pharisiens qui en venaient à déshonorer leurs parents tout en voulant suivre Dieu, ce qui était impossible. Et nous avions retenu pour nous-mêmes les points suivants. Que le Seigneur nous garde d'une piété de façade. Qu'il nous garde d'évaluer notre spiritualité avec des critères extérieurs non rattachés à lui et à sa parole. Qu'il nous garde de mettre nos traditions au-dessus de sa parole. Qu'il nous libère des traditions qui n'ont pas lieu d'être et qu'il nous donne de conserver celles qui aident à honorer Dieu et à vivre dans la sainteté. Et enfin, que nous aimions ses commandements et que nous honorions nos parents avec sincérité. Et avec notre texte d'aujourd'hui, Jésus élargit son auditoire puisqu'il s'adresse de nouveau à la foule. Il livre à tous un enseignement très imagé sur la pureté et sur l'impureté. On va lire le texte, vous comprendrez. Après quoi, en petit comité, il poursuit le plan de formation de ses disciples en expliquant l'image qu'il a présentée à la foule. Donc, il démontre que la véritable source des impuretés n'est pas liée à l'alimentation ou au lavage des mains, mais directement au cœur de l'homme. Donc, lisons ce texte de l'Évangile qui est bien connu, mais qu'il est bon de réentendre. Chapitre 7 de l'évangile de Marc, versets 14 à 23, que je vais lire dans la traduction, dans la version du Semeur. donc verset 14, chapitre 7. Puis Jésus appela de nouveau la foule et lui dit « Écoutez-moi tous et comprenez-moi bien. Rien de ce qui vient du dehors et qui pénètre dans l'homme ne peut le rendre impur. C'est au contraire ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Verset 17, « Lorsque Jésus, laissant la foule, fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent de leur expliquer le sens de cette image. Il leur répondit, « Ainsi, vous non plus, vous ne comprenez pas. Ne saisissez-vous pas que ce que je veux dire, de tout ce qui vient du dehors et pénètre dans l'homme, rien ne peut le rendre impur. » Tout cela, en effet, ne va pas dans son cœur, mais dans son ventre, et est évacué par les voies naturelles. Il déclarait par là même que tous les aliments sont purs. Verset 20, et il ajouta, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises, l'immoralité, le vol et le meurtre, les adultères, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. » Voilà notre texte très clair, très synthétique, et que je vais essayer de commenter. Donc Jésus reprend son enseignement pour tout le monde. En fait, jusque-là, il n'a pas clairement répondu à la question que les pharisiens et les scribes lui avaient posée au verset 5. Les pharisiens avaient dit à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne se conforment-ils pas à la tradition de nos ancêtres? Pourquoi prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Mais dans notre texte, Jésus va répondre bien au-delà de cette simple question. Il va poser, en fin du passage, le fondement et la motivation de son futur règne en déclarant que c'est du cœur de l'homme que provient toute impureté et tout péché. L'homme ne pourra pas de lui-même se justifier devant Dieu puisque son cœur est mauvais de l'intérieur. Lui seul, Jésus, pourra permettre cette justification, mais il ne le dit pas encore. Il prépare le terrain, et la suite de l'évangile révèle effectivement comment ce terrain se développe. Et il dit au verset 14, « écoutez-moi tous, et comprenez-moi bien. » C'est un appel solennel de Jésus. Quand il dit « tous », ça veut dire que même nous, aujourd'hui, ici, nous sommes concernés. Tout le monde est concerné par ce message de Jésus. Tout le monde doit comprendre, mais pas un petit peu, mais bien, nous dit le texte. « Comprenez-moi bien ». Quand on insiste sur ce mot « bien », ça veut dire quelque chose. Et cet appel à la vigilance nous fait penser à un appel un peu semblable que nous avions vu préalablement avec la parabole du semeur, chapitre 4, où Jésus dit « Écoutez, écoutez !» Et il nous redit ici « Écoutez-moi tous !» Donc je vous redis et je nous redis ce matin « Écoutez-moi tous !» La suite, verset 15, voilà ce que dit Jésus, « Rien de ce qui vient du dehors et qui pénètre dans l'homme ne peut le rendre impur. C'est au contraire ce qui sort de l'homme qui le rend impur. » Nous avons là une image pas évidente en première lecture et qui suscite l'interrogation des disciples. Les disciples ne comprennent pas. Mais vous comprenez-vous que cela vient de ce que les pharisiens, et même dans la loi de l'Ancien Testament, certains aliments ne devaient pas être consommés. et même aujourd'hui, dans certaines religions, même chrétiennes ou d'autres, il y a des aliments qui ne sont pas conseillés certains jours de la semaine. Mais Jésus poursuit et il dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors, je pense que vous êtes tous équipés de deux oreilles aujourd'hui. Vous avez tous des oreilles. Et c'est important, c'est un verset qui est absent d'ailleurs dans plusieurs manuscrits, mais qui nous renvoie aussi à un verset équivalent dans cette fameuse parabole de Marc 4, sur la parabole du semeur, où Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et il nous le répète ici. Ce qui veut dire que ce texte est très important. Il faut l'entendre. Et suite à ça, verset 17, lorsque Jésus, laissant la foule, fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent de leur expliquer le sens de cette image. Il leur répondit, « Ainsi, vous non plus, vous ne comprenez pas. Ne saisissez-vous pas ce que je veux dire ?» Nous revoici en petit comité. Jésus a quitté la foule et il est maintenant avec ses disciples, qui étaient en nombre limité, une douzaine. Et on remarque tout d'abord la franchise des disciples qui ont l'honnêteté de reconnaître leur non-compréhension des paroles de Jésus. Ils les ont entendues, mais ils ne les ont pas comprises, en tout cas pas comprises pour eux. Mais Jésus leur répond sur un ton de reproche, en les comparant aux pharisiens. Ce n'est pas gentil, mais c'était la réalité. Comme si eux, ses disciples, auraient dû saisir. Ils auraient dû saisir l'importance de la nouveauté de son message, de ce message qui distille jour après jour, on l'a vu depuis le début de l'Évangile, aux foules et aux disciples. Tantôt aux foules, tantôt aux disciples. Mais Jésus est patient et en bon pédagogue, il va rentrer dans les détails en deux temps. D'abord, il nous dit, verset 18b, la deuxième partie, et verset 19, « Rien de ce qui vient de l'extérieur ne peut rendre l'homme impur. » Deuxièmement, « Puis c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. » Verset 20 à 23. Ce « d'abord » de Jésus s'applique à la nourriture. Pour Jésus, aucune nourriture ne peut rendre l'homme impur et ne peut le souiller. Bien sûr, dans le cadre d'une nourriture normale, on va dire. C'est une affirmation très forte, voire choquante en milieu juif. Il faut se replacer dans le contexte juif qui avait des interdictions au niveau de la nourriture. Jésus affirme que la nourriture n'est pas impure. Et ensuite, de tout ce qui vient du dehors et pénètre dans l'homme, rien ne peut le rendre impur. Tout cela, en effet, ne va pas dans son cœur, mais dans son ventre, est évacué par les voies naturelles. Jésus fait ici un cours d'anatomie pour montrer que la nourriture ne va pas dans le cœur, mais dans ses intestins, avant d'être évacuée aux toilettes. Pour Jésus, c'est le cœur et non le ventre qui est le lieu déterminant en matière de pureté et d'impureté. Et il déclarait par là même, verset 19, que tous les aliments sont purs. Ici, donc, Marc ne fait que de mettre en exergue ce qu'il vient d'affirmer de façon imagée. Si aucun aliment ne peut rendre l'homme impur, c'est que tous les aliments sont purs. Et c'est bien là qu'il y avait un problème pour les Israélites de l'époque. Car dans la loi de Moïse, tous les aliments ne sont pas purs. Il y a les aliments purs d'un côté que les Israélites peuvent consommer librement, la nourriture cachère, et de l'autre, des aliments impurs. Et Jésus suggère maintenant que cette distinction était temporaire. C'était temporaire pour le passé. Et la souillure n'est pas véhiculée par les aliments, car elle n'atteint pas le cœur de l'homme, mais uniquement son ventre. C'est l'une des positions les plus provocantes émises dans tout le ministère de Jésus pour les Juifs. Mais cette position permet d'abord d'aborder et de justifier le message des quatre versets suivants qu'il a directement pour nous. Et il ajouta, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises, l'immoralité, le vol, le meurtre, les adultères, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. Ici, Jésus braque le projecteur sur la pureté morale, ou plutôt sur l'impureté morale, et sur le problème universel du cœur humain en tant que source du mal. Le cœur de l'homme est la clé de la relation de l'homme avec Dieu, mais il est aussi et en même temps la source du problème majeur que l'on doit surmonter. Et cette liste de travers que Jésus mentionne est longue. Elle concerne tous les domaines, les pensées, les attitudes, les paroles, les comportements répréhensibles. C'est tout ce mal qui sort du dedans, du verset 23, qui aurait dû attirer l'attention des pharisiens. C'est ce mal qui fait obstacle à notre relation avec Dieu. La liste est longue. On trouve d'abord 6 comportements répréhensibles. L'immoralité ou l'immoralité sexuelle qui se rattache au 7e commandement sur l'adultère. Le vol qui enfreint le 8e commandement. Le meurtre qui enfreint le 6e commandement. L'adultère qui transgresse le 7e commandement. L'envie ou la soif de posséder qui transgresse le 10e commandement. La méchanceté, ensuite. Puis suivent 6 éléments, généralement moins visibles, mais qui sont plus des attitudes ou des traits de caractère. La tromperie, le vice ou la débauche, la jalousie, le blasphème, l'orgueil. Toutes sortes de comportements insensés, contraires à la sagesse. Tous ces comportements, attitudes, etc., prennent racine dans notre cœur. Et si l'on veut résumer, on peut affirmer que c'est le péché et non la nourriture qui rend impur. Et le péché s'enracine dans le cœur humain. Et l'on voit que Jésus ne relativise absolument pas l'importance des commandements de la loi. Bien au contraire. Par contre, il rejette les règles issues de la tradition humaine, comme nous l'avions vu donc, la fois passée avec cette fameuse règle du corban. Si vous voulez, je peux rappeler ce que c'était. C'est que quelqu'un pouvait, de son vivant, faire un don financier à la synagogue, on dirait aujourd'hui l'Église. Mais c'est une promesse irrémédiable. C'est-à-dire que même si les parents de la personne qui fait cette promesse tombent malades et ont besoin de soutien et ont besoin d'argent, eh bien, je ne peux pas utiliser cet argent pour mes parents. Et vous comprenez là que c'est illogique, parce que dans cela, on n'honore pas ses parents puisqu'on n'en prend pas soin. Donc voilà le genre de situation que Jésus combat. Bien, mais qu'en est-il pour nous aujourd'hui ? Qu'en est-il pour nous aujourd'hui ? Et je retiendrai 3 points, mais je serai bref. La première chose, c'est est-ce que nous sommes si différents que ça des pharisiens ? Est-ce que nous sommes si différents pharisiens. Peut-être que l'on ne fait pas la même gymnastique théologique que les pharisiens pour éviter d'obéir aux commandements de Dieu. Mais au fond, nous sommes tout aussi désobéissants. Et d'une manière ou d'une autre, notre cœur produit les mêmes impuretés que que celle de l'être intérieur de chaque personne, de la foule à qui Jésus parlait. Jésus ne donne pas tout de suite la solution à notre problème, mais la suite de l'Évangile nous apprend que Jésus seul peut produire en nous une transformation profonde et nous accorder un cœur nouveau. Donc, sommes-nous si différents des pharisiens ? Chacun doit s'examiner devant Dieu. Le deuxième point, c'est que les commandements prioritaires de la Bible sont-ils une priorité dans notre quotidien ? Et vous connaissez ces 10 commandements, hein ? Sont-ils prioritaires dans notre vie ? Et avec son altercation avec les pharisiens, Jésus a remis en place, en première place, le commandement d'honorer ses parents. Ce qui n'est pas toujours facile. Ses parents, ils vivent jusqu'à leur mort. Et nous devons les honorer jusqu'à leur mort. Et même après. Et donc, avec ces explications données aux disciples, Jésus renvoie, lui, à tous les commandements qui s'opposent aux impuretés du cœur et qui doivent devenir des priorités dans nos vies. Au lieu des pensées mauvaises, viser des pensées aimantes et justes. Au lieu de l'immoralité, viser la pureté sexuelle, y compris en pensée. Au lieu du vol, viser la générosité. Au lieu du meurtre, viser l'amour du prochain, etc., etc. C'est un vrai chantier pour chacun de nous. Et la question que je vous pose et que je me pose, suis-je bien engagé dans cette voie de mettre en pratique les commandements prioritaires de la Bible ? Est-ce que c'est notre priorité ? Et le troisième point, et avons-nous constaté l'ampleur de la corruption de notre cœur ? Avons-nous trouvé en Jésus la solution à l'impureté de notre cœur ? Notre problème principal n'est pas à l'extérieur de nous, il n'est pas chez notre voisin, mais il est en nous. Notre problème principal est en nous. Notre intérêt pour Jésus est directement proportionnel à notre conscience d'avoir besoin de lui. Si nous croyons n'avoir besoin que d'un simple guide spirituel, suivre Jésus ne sera pas une grande priorité dans notre vie. Mais si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes et que nous constatons avec une pleine conscience que c'est de notre cœur que naissent les 12 comportements et attitudes décriés par Jésus et que j'ai lu tout à l'heure, les mauvaises pensées, l'immoralité, le vol, les adultères, etc., alors nous supplierons Jésus de venir à notre secours. Si nous sommes déjà disciples de Jésus, certes, notre cœur est transformé quand nous nous sommes convertis à Jésus-Christ. Pourtant, la tentation demeure de laisser nos impuretés morales d'autrefois refaire surface. Choisissons donc fermement de mener la vie nouvelle de disciples à laquelle Jésus nous a appelés. Nous bénéficions de la présence permanente de Jésus par son esprit. Profitons de cette proximité de Dieu. Attachons-nous à lui. Développons notre vie de prière, comme nous l'avons vu le dimanche 1er juin avec le pasteur Evis, qui a insisté sur la vie de prière. Et puis développons notre communion avec les frères et sœurs. Sylvain a parlé tout à l'heure des groupes de maison, c'est des petits groupes où on peut développer la communion plus facilement que dans une grande assemblée. Eh bien, développons cette communion avec nos frères et sœurs et ensuite faisons connaître Jésus autour de nous. Que Dieu nous aide dans toute cette démarche qui est fondamentale pour notre vie de tous les jours, notre vie chrétienne. Amen. Je vais prier et nous chanterons ensuite le cantique « Purifie mon cœur, le feu du fondeur ». Seigneur, on veut te dire merci pour la clarté de ta parole qui ne va pas par 36 chemins et qui nous montre clairement quelle est la nature de notre cœur. Seigneur, on te remercie parce que tu as tout fait pour que notre cœur soit purifié grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Seigneur, que Christ soit le centre de notre vie. Et si quelqu'un n'est pas au clair sur cette question, Seigneur, qu'il réfléchisse, qu'il puise dans ta parole et aussi auprès du conseil de tel ou tel dans l'Église les éléments pour te connaître comme sauveur. On te remet, Seigneur, tout. Les pays qui sont actuellement en guerre, en particulier en Ukraine et au Moyen-Orient. Seigneur, que tu donnes ta paix, que tu donnes ta paix, que tu purifies les cœurs, Seigneur, pour que la paix revienne.